The UPR?
Mm-hmm. Well, for I think the first step for Yemen would be to not for Yemen. I think it's something that's applicable to all countries. It's to do a some sort of mapping of civil society organizations or activists, people who work on women's rights, people who have experience in the issue. And you can, for example, in Yemen now you have the Office of the High Commissioner for Human Rights. That's based in Sana'a, so that would be a good tool for you. If you can contact the office that's in Yemen now, that would be a way of maybe getting access to other civil society organizations that you don't know about, or to ask them maybe to do the same kind of thing that in Lebanon, to do a training that would enable you to start and to ask to have, for example, a training on gender within that training on the UPR. Sorry. That could be a way for you to start having a coalition and to make sure that there are women's rights activists, that there are civil society organizations working on women's rights.
Merci pour cette intervention. J'aimerais savoir si vous avez pu réussir à faire prendre en compte les préoccupations de gens dans le rapport national. Vous avez parlé de rapport, j'ai pensé au rapport de la société civile. Mm-hmm. Mais dans le rapport fait par le gouvernement, est-ce qu'à ce niveau, on a suffisamment pris en compte les questions de genre? Parce que c'est un grand problème. Hein? Mm-hmm. On sait que souvent, quand on parle de questions de genre, ce sont les organisations féminines qui prennent en charge cette question-là. Dans les organisations mixtes, la plupart du temps, ce sont les femmes qu'on affecte à traiter les questions de genre.
C'est juste.
Au niveau du gouvernement, n'en parlons pas. Ouais. Maintenant, à ce niveau, je ne sais pas jusqu'à quel niveau vraiment vous avez pu quand même avoir des succès.
Si vous parlez du rapport du gouvernement libanais qu'ils ont soumis à l'EPU, c'est sûr que le focus sur le genre était moindre que la soumission qui a été faite par la société civile. Maintenant, je suis complètement d'accord avec vous et c'est pour ça que c'est important, c'était la conversation qu'on avait, c'est important de généraliser la question de genre à tous les niveaux pour être sûr que c'est pas quelque chose qui est mis de côté, parce que c'est totalement vrai que dans les organisations de droits de l'homme ou de développement qui n'ont pas un focus spécifique sur les droits des femmes, c'est vrai qu'on dit à une femme de s'occuper de ces questions-là et puis on la met devant dès qu'il y a une histoire de droits de la femme et puis après on oublie les recommandations. Il faudrait, pour être honnête, j'ai pas le rapport de 2012 de la société civile en tête là, donc j'ai pas l'exact statut de la mise en œuvre des recommandations qui ont été faites au Liban. Je sais qu'il y a beaucoup de recommandations qui touchent spécifiquement aux droits de la femme qui ont été faites. Et sur le statut personnel, je peux déjà vous dire que je crois quasiment aucune a été mise en œuvre, par exemple, tout ce qui touche aux réserves des articles 9, l'article 16 de la Convention d'élimination de discrimination, tout ça, ça n'a pas été mis en œuvre. Donc, c'est vrai que le succès de mise en œuvre de ces recommandations-là, je pense, le pourcentage d'application n'est pas très haut. Et c'est exactement pour la raison que vous avez citée, puisque ce qu'on entend beaucoup au sein du gouvernement libanais, c'est que le Liban a tellement de problèmes en ce moment, qu'il y a tellement de choses que ça sert à rien. Enfin, c'est des questions secondaires. Voilà, c'est complètement traité comme des questions secondaires. Et c'est là le nœud du problème. Et c'est pour ça que c'est important d'aller au-delà de juste noter les discriminations, mais de montrer comment c'est un système qui fait en sorte que ces discriminations arrivent.
Okay. Merci. Juste une petite question d'éclaircissement. Dans l'organisation de ces débats publics, est-ce que quelque part l'État libanais a été impliqué dans l'organisation de ces débats?
Oui, ils ont été pas impliqués dans l'organisation, mais ils ont été invités. Quand il y a eu la conférence de presse, il y a des parlementaires libanais qui ont été invités et il y avait des liens. Effectivement, quand la coalition était en train de travailler, il y avait des liens. Et c'est quelque chose qui continue à se faire. Il n'y a pas un Donc, il y a un problème de mise en œuvre des recommandations, mais il y a quand même une possibilité d'être en contact, d'avoir un dialogue avec des représentants de l'État libanais. Oui.
Par rapport à l'Égypte, en fait, vu que la situation elle est un petit peu comparable à notre, en Tunisie, mais cette coalition, elle était avant la révolution ou après,
en fait. C'était avant. En Égypte, c'était
en
2010.
Ça n'a pas de problème par rapport à cette coalition, son travail et tout.
Maintenant, il y a des... En fait, en Égypte, il y a plusieurs coalitions, si vous voulez. Donc, il y a plusieurs organisations qui se mettent ensemble pour travailler. Et là, non. Bon, pour le moment, on a commencé. Donc là, l'Institut du Caire, par exemple, aussi coordonne une autre coalition. Et pour le moment, voilà, c'est des groupes de... Là, je crois qu'on était à peut-être 15 organisations de la société civile. On travaille ensemble en prévision de la révision de l'année prochaine pour l'Égypte.